Les conférences du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ma deuxième conférence, Mythologie juive, mythologie grecque. Premier chapitre, Mythologie juive. Il se peut que le parallélisme du titre de ma deuxième conférence dans le cadre de mon cours sur les débuts de la philosophie juive dans l'Antiquité vous paraisse surprenant. Mythologie grecque, oui, mais mythologie juive. Contre l'idée d'une mythologie juive s'élève en effet depuis le XVIIIe siècle une multitude d'opinions. Pour Bernard de Fontenelle, le neveu de Corneille et l'auteur du livre de l'origine des fables, publié en 1724, tous les peuples ont une mythologie, ou plutôt, comme on disait toujours à l'époque, des fables, hormis le peuple élu, chez qui un soin particulier de la Providence a conservé la vérité. Si de Fontenelle rend hommage à l'abstinence juive israélite en matière de mythologie, Voltaire, un peu plus tard, considère cette abstinence mythologique non comme une vertu, mais comme une incapacité fondamentale. Tout ce que les Juifs arrivent à accomplir, c'est faire du commerce avec le mythe. À ce sujet, dans son article sur Abraham, Voltaire écrit « Les Juifs firent donc de l'histoire de la fable ancienne ce que leurs fripiers font de leurs vieux habits. Ils retournent et les vendent comme neufs le plus chèrement qu'ils peuvent. » Selon Voltaire, les Juifs ne pouvaient pas créer leur propre mythe. Tous les peuples dont les Juifs étaient entourés avaient une genèse, une théogonie, une cosmogonie, longtemps avant que ces Juifs existassent. Ne voit-on pas évidemment que la genèse des Juifs était prise des anciennes fables de leurs voisins? Le discours sur l'inexistence de la mythologie juive se poursuit au XIXe siècle lorsque la mythologie devient une branche scientifique à part entière. Certains dénient alors la mythologie aux Juifs en raison de leur prétendu manque de créativité, d'autres nient l'existence d'une mythologie dans l'ancien Israël d'un point de vue théologique. Le discours est parfois polémique, parfois très polémique, comme chez Voltaire, parfois apologétique. Dans tous les cas, l'enjeu du mythe semble être d'importance. Et cela n'a rien de surprenant, car les mythes ne sont pas de simples récits légendaires et fabuleux, même si c'est dans ce sens que nous aborderons le terme « mythos » dans les sources judéo-hellénistiques ce soir, mais bien des récits véritablement importants. Dans les études modernes, le terme « mythe » est souvent et à juste titre compris dans un sens qui concerne la fonction plutôt que le contenu. Walter Burkert définit le mythe ainsi « Le mythe est un récit traditionnel avec une référence secondaire et partielle à quelque chose d'importance collective. » D'autres définitions du mythe sont plus restrictives quant au contenu et font par exemple d'un système polythéiste une condition pour un mythe. Cependant, le mythe, il me semble, se définit en effet mieux par ses intentions que par son contenu. Ma conférence ce soir ne portera pas sur la mythologie juive ancienne en tant que telle, dont l'existence ne peut en effet guère être mise en doute, mais sur la discussion qui concerne les mythes dans la littérature judéo-hellénistique, plus particulièrement chez Philon d'Alexandrie et chez l'historien judéo-romain Flavius Joseph. Comment ces auteurs abordent-ils la question d'une mythologie juive et comment réagissent-ils à la mythologie grecque omniprésente dans le monde méditerranéen antique? Nous verrons que, même si nos sources utilisent « mythos » surtout dans un sens descriptif, dans le sens d'un récit inventé, en grec « mythos » ou « plasma », la signification du mythe comme fonction demeure importante. Nous verrons aussi que pour les Juifs, l'enjeu du mythe à l'époque hellénistique était considérable. Revenons très brièvement à Harry Austin Wolfson et sa grande monographie sur Philon publié en 1947, dont nous avons traité la semaine dernière. Wilson écrit « Dans tous leurs efforts pour présenter le judaïsme au monde sous une forme compréhensible et acceptable, les écrivains juifs alexandrins n'ont jamais fait de compromis avec la religion populaire grecque, la mythologie ou les mystères. Ils n'ont jamais tenté de présenter le dieu juif comme l'un des dieux de la religion populaire, ni la tradition juive comme un mythe, ni les rites du judaïsme comme des rites de mystère. S'il leur arrive de faire appel à des allusions mythologiques, c'est uniquement en tant que forme d'expression littéraire et toujours avec la réserve, parfois exprimée, que l'utilisation mythologique ne doit pas être considérée comme l'expression d'une croyance dans le mythe dont il est question. » Dans ce commentaire sur les réponses juives alexandrines à la religion grecque, Wilson ne voit dans la littérature judéo-hellénistique aucune place pour les mythes grecs. Philon conclut, Wilson n'admet avec ses philosophes grecs que leur mythologie, créée par l'homme, contient des vérités philosophiques qui doivent être découvertes par la méthode allégorique. Cependant, ce qu'il refuse à la mythologie, il le revendique pour la divine écriture hébraïque. Ce n'est pas que Wilson ignore les nuances dans la discussion de Philon sur le mythe. Il admet que, et je le cite, « malgré sa condamnation de la religion populaire, de la mythologie et des mystères, Philon n'hésite pas à utiliser le vocabulaire de tous ces éléments dans sa description des croyances et des institutions du judaïsme. » Toutefois, in fine, selon Wilson, le mythe n'a pour Philon pas de sens. Le refus radical de Wilson de reconnaître une quelconque valeur au mythe dans Philon s'inscrit dans la thèse plus large de son histoire de la philosophie. Dans ma première conférence, j'ai critiqué l'idée d'une séparation hermétique entre philosophie et judaïsme, ainsi qu'entre hellénisme et judaïsme, séparation qui n'est pas vraiment significative pour Philon et ses prédécesseurs judéo-hellénistiques. Aujourd'hui, nous verrons que la discussion de la mythologie chez Philon d'Alexandrie est en fait un autre exemple pour ce phénomène de judaïsme et hellénisme tout à fait brouillé. Deuxième chapitre, lutter avec la mythologie juive. À première vue, de nombreux passages de Philon d'Alexandrie semblent confirmer la conclusion de Wilson selon laquelle le mythe n'a aucune valeur pour Philon et où toute son œuvre est subordonnée à l'écriture. En effet, dès le début de son traité important sur la création du monde, Theopificio Mundi, Philon oppose Moïse et d'autres législateurs en présentant la loi juive comme étant exempte de mythes. Il écrit, et c'est le début de ce traité, « Parmi les législateurs, les uns ont prescrit, dépouillés et sans fard, ce qui à leurs yeux était considéré comme juste. Les autres, enveloppant leurs pensées de toute une enflure surajoutée, ont trempé les foules par les fumées de l'illusion en masquant la vérité sous des fictions mythiques. » Mythikois plasmasi. Mais Moïse s'est mis au-dessus de ces deux procédés, considérant l'un comme irréfléchi, hâtif et non philosophique, a philosophon, l'autre comme mensonger et plein de charlatanisme. Il donna aux lois l'origine la plus belle et la plus auguste, sans indiquer tout de suite ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et puisqu'il était nécessaire de former l'intelligence des futurs usagers des lois, sans fabriquer de mythe, ni consentir à ceux que d'autres avaient composés. Longtemps avant de Fontenelle et Voltaire, Philon nie l'existence d'une mythologie juive, certes dans un tout autre contexte. Le Moïse de Philon est aussi éloigné des fabrications mythiques que l'on puisse l'imaginer, et l'explication qu'il donne du rejet des mythes est révélatrice. Le mythe s'oppose à la loi qui a été donnée pour le bénéfice durable des générations futures. Les mythes sont des figures éphémères et sont donc à l'opposé de la nature immuable et vraie de la loi juive. En faisant une déclaration aussi claire au seuil de la discussion sur la création du monde, qu'il résume comme la plus étonnante, Philon rejette de manière apologétique toute interprétation du commencement du monde comme un mythe. Flavius Joseph, qui écrit une génération après Philon et à Rome, oppose un démenti tout aussi féroce au mythe et au début de ces antiquités juives écrites vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. J'invite donc maintenant ceux qui liront ces livres, Flavius Joseph écrit, à élever leur pensée jusqu'à Dieu et à examiner si notre législateur a eu une conception juste de sa nature, s'il lui a toujours assigné un rôle conforme à sa puissance, tout en gardant pour en parler un langage pur de cette mythologie inconvenante qu'on trouve chez d'autres. Dans les deux cas, la prise de distance par rapport au mythe est clairement conçue comme une attaque préventive contre les accusations d'une mythologie juive. Cependant, le rejet du mythe par Philon ne se limite en aucun cas à sa discussion sur la création du monde. C'est un point que l'on retrouve à plusieurs reprises dans l'œuvre de Philon. L'utilisation de mythes est instable, Philon écrit, est peu fiable. Elle est symbolisée par Ésaü, le chasseur sans domicile fixe, à Oikos, à l'opposé de son frère Jacob, qui est stable, sincère, à Plastos, et qui demeure dans sa tente. Ésaü lui-même n'est rien d'autre qu'un simple mythe, mythos autos. Les mythes sont les autres, c'est comme la magie. Mais les choses sont plus compliquées et peut-être aussi plus intéressantes. L'existence des notes apologétiques de Philon renvoie au fait qu'il est clairement conscient du pouvoir mythologique inhérent au récit biblique. Même s'il nie souvent toute forme de mythologie, il peut très bien discuter des histoires bibliques dans le cadre de paramètres mythiques. Sa discussion de la destruction de Sodome et de la métamorphose de la femme de Lot en colonne de sel en est un bon exemple. Philon était certainement conscient que le motif d'une métamorphose, était très courant dans la mythologie païenne, et il n'est donc pas surprenant qu'il souligne lors de l'introduction de cet épisode que Moïse n'invente pas une fable ou mutoplastone, mais indique la particularité d'un fait. Philon lit alors l'histoire de la femme de Lot, qui se retourne en arrière et devient une colonne de manière allégorique, comme il le fait ailleurs à propos de la destruction de Sodome. Le pilier est un exemple pour ceux qui n'ont aucun désir de trouver ou de chercher. Il écrit « Car l'homme qui fait peu cas de son maître sous l'effet d'une nonchalance innée et aussi habituelle, néglige les moyens qu'il a devant lui de voir, d'entendre et d'user des autres facultés pour juger les faits de la nature. Mais il dresse le coup et se tourne en arrière, intéressé par ce qu'il y a d'obscur dans les événements de la vie, plus encore que dans les parties du corps. Elle devient un bloc inerte, une sorte de pierre inanimée et sourde. » Comme souvent, c'est l'allégorie qui, pour Philon, ouvre la voie de l'exégèse. La métamorphose de la femme de Lot représente l'aveuglement des gens qui ne tiennent pas compte du potentiel vertueux qui se trouve devant eux. Si Philon, dans le cas de la femme de Lot, n'explique pas explicitement que l'allégorie est la solution à un problème exégétique, il le fait ailleurs. Le serpent du paradis biblique ne doit en aucun cas être compris comme l'une de ces inventions mythiques telles qu'elles sont connues dans la littérature païenne. De tels récits sont plutôt des exemples de modèles qui littéralement appellent l'interprétation allégorique. Et Philon est encore plus explicite lorsqu'il ajoute l'autre serpent biblique, l'épisode du serpent de bronze dans le livre des Nombres. Ce n'est que lorsque le sens secret ou les mots couverts de telle scène est expliqué que le mythique ne fait plus obstacle et que la vérité est découverte comme étant manifeste, comme il écrit. Ici, Philon est très proche de confirmer que de tels épisodes bibliques sont des mythes. La Bible n'est donc pas exempte de mythes. Un tel mythe est, comme l'écrit Philon dans le contexte de l'histoire de la tour de Babel, à laquelle nous allons revenir, un obstacle qui fait trébucher l'interprète. Dans de tels cas, c'est l'allégorie, remède herméneutique de Philon, qui permet un parcours d'arguments sans trébucher. Le mythique est alors loin des pieds, hors du chemin, en grec, ekpodon. Cependant, l'allégorie ne fait pas disparaître le mythe. Philon devait être conscient que tout ce que l'allégorie peut faire, c'est domestiquer le mythe. Mais le mythe est toujours là. Il est, pour reprendre une image de la mythologie grecque, un peu comme dans le cas de Typhon, le monstre vaincu par Zeus, mais qui continue à traîner dans le Tartare. Le mythe ne disparaît pas. Le mythe juif, il n'est presque jamais manifesté en tant que tel dans l'œuvre de Philon, mais Philon semble pourtant avoir été conscient que le mythe juif n'est pas simplement un oxymore. Parfois, Philon peut décrire plus explicitement le mythe comme un problème qui doit être résolu afin d'éviter des ennuis. Un exemple remarquable de dénonciation de récits bibliques comme mythe est une note au début de son exégèse de la création d'Ève à partir d'une des côtes d'Adam. Dans une simple clause principale, Philon, après avoir cité Genèse 2:21, déclare « Le sens littéral est ici un sens mythique, mutodes esti. Comment admettre qu'une femme, et en général un être humain, est née de la côte d'un homme ?» Philon admet que l'histoire de la création d'Ève à partir d'Adam est un mythe, puis se réfugie une fois de plus dans l'allégorie. L'histoire est une métaphore de la création des sens qui ont été créés après la création de l'esprit. Dans son traité « Quod Deo sit immutabilis » sur l'immuabilité de Dieu, Philon s'interroge sur les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible. Le fait que Dieu ait les mêmes parties du corps que les hommes ne peut avoir été l'intention du texte. Si Dieu est pourvu de membres et d'organes, il a des jambes pour avancer, mais où portera-t-il ses pas, lui dont tout est plein? Qui ira-t-il voir, lui qui n'a pas d'égal? Et dans quel dessein, lui qui n'a pas, comme nous, à se soucier de sa santé? Il s'agit d'ailleurs peut-être de la première référence dans la littérature juive à l'importance humaine de bouger. Mais Dieu n'a pas besoin de se promener pour rester en forme. Il n'a pas non plus besoin de mains, Dieu, ou d'organes de nutrition. Car, Philon écrit, s'il, Dieu, en est pourvu, il se nourrit. Une fois rassasié, il s'arrête. Et après un temps, il ressent de nouveau de l'appétit. Je ne saurais parler de tout ce qui s'en suivrait. Ce sont la fiction mythique de gens impies qui prêtent à la divinité, théoriquement, une forme humaine, mais en fait, les servitudes humaines. Si Dieu avait un corps fonctionnant comme celui des humains, poursuit Philon, il n'y aurait aucune différence avec ce que disent les poètes dans leur description des divinités. Cependant, ici aussi, Philon ne peut qu'admettre les parallèles évidents entre le mythe juif et le mythe païen. Et ici, Philon ne nie pas l'existence du mythe dans la Bible en se réfugiant simplement dans l'allégorie. Il justifie plutôt le langage anthropomorphique de la Bible en tant qu'outil didactique pour les masses. Le législateur, donc Moïse, tient néanmoins des propos de ce genre dans la mesure où ils fournissent la matière d'une instruction préliminaire pour faire la leçon à ceux qui, autrement, ne pourraient pas se conduire raisonnablement. Le langage anthropomorphique, avec toutes ses connotations mythiques, peut être nécessaire lorsque le public visé est incapable de voir clair, pour citer Philon, « Oxu kataron adunatuntes ». Philon admet donc, au moins implicitement, sinon explicitement, que dans certains contextes, la création de mythes, mythopoïa, peut être nécessaire. Il s'agit de mythes faute de mieux, mais cela reste un mythe. Adam Kamazar note à juste titre, « car lorsque le sens littéral est justifié sur la base de son effet pédagogique, l'élément mythique n'est pas guéri ou annulé, mais plutôt positivement affirmé et mis en lumière. Philon avait certainement des prédécesseurs, platoniciens et stoïciens, pour cette lecture pédagogique ou didactique du mythe. Platon, en effet, et comme l'a démontré Luc Prisson, part du principe que les sens et l'intellect n'ont finalement pas un accès direct à la réalité de certaines choses, comme l'immortalité ou les événements du passé. Les mythes permettent de traiter des choses qui, autrement, échapperaient à notre perception, et ce, d'une manière compréhensible pour un large public. C'est ainsi que s'explique l'anthropomorphisme qui rend possible la pensée et le discours sur ces sujets. Philon explique la mutopoïa, la création de mythes, d'une manière très très similaire à celle de Platon. Comme Platon, qui à part cela est très critique envers les mythes, Philon est conscient de la valeur du mythe pour transmettre un message. Les Juifs et les Grecs partageaient leur critique du mythe et justifiaient le mythe de manière similaire. Troisième chapitre, utiliser la mythologie grecque. Après ces réflexions, il est tout de même remarquable d'observer que Philon puisse s'inspirer du mythe grec pour mieux comprendre la loi juive. Sa discussion sur la zoophilie dans le De Specialibus Legibus est un exemple frappant de son utilisation à la fois du mythe grec et de la Torah. Philon commence par un récit remarquablement détaillé du mythe de Pasiphae, la mère du Minotaure. Il utilise la passion débridée de Pasiphae pour un taureau et la naissance du Minotaure comme introduction à l'interdiction juive de la zoophilie. La Torah interdit à plusieurs reprises les relations sexuelles entre les hommes et les animaux. Philon ne croyait évidemment pas à l'existence réelle de Pasiphae, aussi peu qu'un auteur païen le ferait. De tels personnages, Philon le dit explicitement, n'existent pas. Ils ne sont pas réels, mais inventés. Cependant, lus de manière allégorique, de tels mythes d'inconduite sexuelle, et à côté de Pasiphae et du Minotaure, Philon fait référence aussi aux centaures et aux chimères, peuvent servir un objectif valable. L'utilisation du mythe grec par Philon est donc très similaire à sa façon de traiter le mythe juif. Le mythe de Pasiphae et Minotaure ne peut être pris au pied de la lettre, mais il a une valeur didactique, pédagogique. Il sert de mise en garde contre l'inconduite sexuelle et la luxure illimitée. D'une certaine manière, Philon croyait donc en un mythe tel que celui de Pasiphae. Il croyait certainement au pouvoir et à l'autorité de ces histoires en tant que référence. Et vous voyez comment la compréhension moderne du mythe en tant qu'histoire traditionnelle pertinente pour un groupe peut recouper la signification antique du mythe. Le mythe grec peut donc devenir un argument à l'appui de l'interprétation de la Bible. Après sa discussion sur le mythe de Pasiphae, Philon revient à la sainte loi, Hieros Nomos, de la Bible, et cite l'introduction biblique de la zoophilie du livre de Lévitique. Dans les deux cas, les transgressions de ce genre conduisent à des résultats abominables. Elle utilise le même mot, vous le voyez ici, palimphéma, pour ces résultats abominables. Telles sont les conséquences de l'homme qui s'adonne au plaisir et aux convoitises. Philon combine donc le mythe grec et la Torah pour faire valoir un point de vue dans ce cas, sur le comportement sexuel juste. La dichotomie simpliste de Philon, et plus tard de Fontenelle, entre la loi juive comme vérité et le mythe comme invention a donc ses limites, tout comme la distinction de Wolfson entre l'utilisation de l'écriture divine et du mythe d'Amphilon. L'affirmation de Wolfson selon laquelle, pour Philon, les mythes n'ont pas de signification sous-jacente, « myths have no underlying meaning », doit être nuancée. On pourrait même aller jusqu'à dire que, d'une certaine manière, la mythologie grecque peut servir d'autres corpus d'écriture pour Philon. La Torah et la mythologie grecque font office, toutes deux, de sources d'interprétation chez Philon. En effet, Pasiphaé n'est pas le seul exemple dans Philon où le mythe grec soutient l'exégèse de la Bible, où la Bible et le mythe se rencontrent. Prenons l'exemple de Caïn et Scylla, le monstre homérique, un couple improbable à première vue. Selon Philon, la punition de Caïn était de ne jamais mourir. Sa mort n'est pas mentionnée dans la Bible. Dans la lecture allégorique de Philon, Caïn est un symbole du mal qui ne disparaît jamais, tout comme c'est le cas pour la mythique Scylla. Il écrit « Le vrai signe que Caïn n'a pas été tué, c'est qu'il n'a jamais disparu. On ne parle nulle part de sa mort dans tout le livre de la loi, ce qui signifie que, tel Scylla dans le mythe, la folie est un mal immortel. Elle subit non pas la fin, qui consiste à mourir une fois, mais pendant toute l'éternité, celle qui consiste à mourir sans cesse. » La référence de Philon à Scylla est très brève, comme la plupart de ses références au mythe grec chez Philon. Il suppose que le lecteur sait que Scylla et Charybde sentent un mal immortel, une phrase d'Homère d'ailleurs, à Thanaton Kakon. Ici aussi, la Bible et le mythe grec sont combinés pour faire valoir un point de vue. Philon utilise à la fois les écritures bibliques et mythologiques pour son argumentation. On peut en dire autant d'un autre théologoumène important de Philon, l'homme en tant qu'être créé a la particularité de souffrir, alors que Dieu, en tant que créateur, ne peut pas souffrir. Pour Philon, l'exemple emblématique de quelqu'un qui refuse sottement d'accepter le destin humain de la souffrance est Sisyphe, dans le mythe grec, qui résiste constamment à son destin. Il écrit « Celui qui l'accepte au départ comme naturel et nécessaire supportera facilement ce qui tombera sur lui, même si c'est très lourd. Mais celui qui croit qu'il y est étranger sera courbé sur un fardeau sans fin et subira le châtiment de Sisyphe, incapable même de lever la tête, soumis à tous les maux qui se jettent sur lui et le prennent à la gorge, aggravant chacun d'eux par esprit de soumission et d'abandon, qui est la maladie d'une âme sans noblesse ni virilité. Il faudrait supporter, résister, tenir ferme, fortifier sa résolution et la barricader de la patience et de l'endurance qu'on tire de son propre fond, les plus puissantes des vertus. » Le Sisyphe du mythe grec a tort de ne pas accepter son destin. Philon aurait apprécié laisser le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui imagine Sisyphe heureux. Et même dans le traité de Philon sur le décalogue, le mythe grec peut servir de point de soutien. Ici aussi, l'argumentation de Philon est quelque peu contradictoire, pour ne pas dire plus. D'une part, le deuxième commandement, l'interdiction des images taillées, est présenté comme une garantie juive contre le mythe. Il, c'est Dieu, ne souffre pas que l'on installe d'images, de statues, ni d'une manière générale d'idoles, ni que l'on accepte d'entendre parler, même comme de fiction légendaire, du mariage ou de la naissance des dieux, avec toutes les innombrables et affreuses disgrâces qui viennent à leur suite. Avec le mont Sinaï et l'Exode, on pourrait dire que le judaïsme laisse derrière lui les dangers de la mythologie. Comme Philon l'écrit ailleurs, les Égyptiens étaient victimes d'une idolâtrie mythique, le péché du veau d'or étant un exemple de fable faussement inventée. Mais 8 commandements plus tard, tu ne combattras pas, la mythologie grecque est de retour et à nouveau une référence bienvenue. Le désir incessant entraîne un châtiment semblable à celui de Tantale, Philon écrit. Celui-ci, Tantale, en effet, voyait tous les objets qu'il désirait, lui échapper au moment où il allait y toucher, et l'homme que domine le désir et qui toujours a soif de bien absent, ne connaît jamais la satiété et reste dans les convulsions de son vain appétit. Une fois de plus, Philon utilise le mythe grec pour la théologie juive, même ici dans le contexte du décalogue. Ce fait est remarquable et ne doit pas être pris à la légère, selon Gerhard Delling, auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme hellénistique. Philon ici ne s'est pas rendu compte, pendant un bref instant, qu'il utilisait le mythe grec pour son argumentation. Er war sich im Augenblick nicht bewusst. Mais Philon était certainement conscient qu'il revenait au mythe grec. Il utilise le mythe grec pour sa propre compréhension juive du monde. Par endroits, il semble presque moins important pour Philon de savoir quelle tradition l'on a à l'esprit, la loi juive ou la mythologie grecque, que d'interpréter correctement l'histoire. Philon peut se référer à la fois au Deucalion grec et au Noé biblique comme exemple d'une récompense divine pour la justice humaine. C'est cet homme-là que les Grecs appellent Deucalion et les Chaldéens sont pour lui les Juifs, et les Chaldéens Noé, au temps où eut lieu le grand déluge. Dans le cas du déluge, les deux récits, celui de Deucalion et celui de Noé, transmettent le même message, à condition d'être interprétés correctement. L'identification par Philon de Noé avec Deucalion est tout de même plutôt inhabituelle. En principe, pour Philon, le mythe grec et l'écriture ne sont pas sur le même plan, et le judaïsme l'emporte sur le mythe grec. Comme le note Philon quelque part dans le traité sur l'immuabilité de Dieu, 155, la nourriture divine que Dieu laisse pleuvoir du ciel, la manne, est meilleure que l'ambroisie et le nectar du mythe grec. Dans l'ensemble, il ne fait aucun doute que le Dieu juif cuisine mieux que Zeus. C'est ma phrase, c'est pas Philon. Mais dans la cuisine exégétique et philosophique de Philon, la mythologie grecque est néanmoins un ingrédient important. En ce qui concerne les mythes grecs, Philon ne les accepte ni les rejette. Accepter les mythes consisterait à raconter à nouveau des histoires mythiques en soulignant leur véracité. Les rejeter reviendrait à les nier tous, c'est-à-dire à affirmer qu'ils ne sont pas pertinents. Cependant, Philon peut se tourner vers les mythes grecs pour y chercher des modèles d'identification et une sagesse symbolique durable. À plusieurs reprises, Philon s'autorise un remarquable, et je cite Jean Pépin, « goût du comparatisme » et revient aux mythes grecs dans le cadre de réflexions théologiques sur des passages biblique. Quatrième chapitre, critiquer la mythologie juive. Il semble en clair que l'approche du mythe par Philon est ambivalente. Pour l'éclairer, revenons encore une fois au problème d'une mythologie juive. Au début de son traité De Confusione Linguarum, Philon fait référence à des juifs qui critiquent leur propre tradition et accuse la loi juive d'inclure un contenu mythologique. Le contexte immédiat de la polémique est l'histoire biblique de la tour de Babel, chapitre 11 du livre de la Genèse. Philon écrit « Ceux qui sont mécontents de la constitution sous laquelle leurs pères ont vécu, hoimen tus chereinontes te patrio, Politeia, et qui passent leur temps à réfuter et à décrier nos lois, ces mécréants pensent trouver dans ces versets et dans ceux du même genre comme un moyen de faire passer leur athéisme. Est-ce que vous pouvez encore prendre au sérieux, disent-ils, les commandements, comme s'ils contenaient les canons de la vérité absolue? Prenez cette écriture que l'on appelle sainte chez vous. Elle contient, elle, aussi de ces mythes que vous tournez sans cesse en dérision quand c'est chez les autres que vous les entendez. Il est un de ces mythes, en tout cas, qui rappelle les récits sur les fils d'Aloé. Homère, le plus grand et le plus célèbre des poètes, raconte que ses héros se sont mis en tête d'empiler les trois plus hautes montagnes l'une au-dessus de l'autre, dans l'espoir, une fois qu'elles atteindraient les régions éthérées, de rendre praticable la route des cieux pour ceux qui voudraient y monter. Selon ces athées juifs, et ils utilisent vraiment le terme « tes athiotetos », selon ces athées juifs, la loi juive, les soi-disant livres saints, comme ils disent, est un mythe, tout comme les épopées homériques. En fait, le mythe homérique serait le premier, la Bible juive simplement un mythe réécrit. Moïse aurait remplacé les montagnes du mythe des Alouates par une tour. Dans ce dialogue intérieur fictif, qui est néanmoins présenté par Philon comme réaliste, les critiques juives comparent l'histoire de la tour de Babel avec le mythe grec des Alouades. Dans la mythologie grecque, les Alouades, ou les Aloués, sont des géants rebelles qui essaient d'escalader le ciel en entassant des montagnes. Vous l'avez vu. Voilà le parallèle avec l'histoire biblique des architectes de la tour de Babel. Selon les critiques, rien dans le mythe des Alouates ne peut être vrai. Il s'agit plutôt d'un exemple d'une énorme lésion cérébrale, phrenoblabeia, un terme polémique cher à Philon, mais à peine attesté en dehors de son œuvre. Ainsi, les critiques juifs du mythe rejettent également la mythologie païenne. Il est remarquable que Philon ne rejette pas explicitement la comparaison entre l'histoire biblique de Babel et le mythe grec des Alouades. Il est vrai qu'au début de sa discussion, Philon décrit ses critiques juives dans un langage très négatif, on l'a vu, ce sont des athées, mais dans les paragraphes suivants, il ne se distancie pas vraiment d'eux. En fait, il est presque impossible de tracer une ligne de démarcation nette entre les remarques des critiques et le rapport qu'il en fait. Philon ne cite pas les critiques, mais il les paraphrase et le fait dans sa propre langue. À un moment donné, ses commentaires sur le mythe et ceux des critiques se confondent. Comme on peut s'y attendre, Philon présente une interprétation allégorique de la confession biblique des langues. L'état originel, lorsque toute la terre était une seule lèvre et c'était une seule voix pour tous, Genèse 11.1, doit être compris comme un concert d'inérables, d'énormes méfaits, il écrit. C'est pourquoi la confusion des langues est conçue comme une correction et une précaution contre le mal uni. La décision de Dieu de confondre les langues équivaut à rendre sourde et muette chaque partie de la perversité afin que ni l'émission de la parole isolée, ni l'unisson avec autrui ne rendent la perversité capable de nuire, il écrit. Philon n'est pas le seul à avoir essayé de donner un sens au récit dramatique de la tour de Babel. D'autres sources judéo-hellénistiques, telles que les oracles sibyllins et Flavius Joseph, nous apprennent que cette histoire était à la fois particulièrement attrayante et complexe. De même, les philosophes païens, à commencer par les présocratiques, se sont battus avec leurs mythes. Ils les ont rejetés, réinterprétés, notamment sous des formes allégoriques aussi, mais les ont aussi parfois approuvés. Dans son étude classique, les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, et c'est sur l'imagination constituante, Paul Venn décrit cette ambivalence à l'égard des mythes de manière très précise. Et je le cite, quand il détaille quelques légendes, les écrivains de l'époque hellénistique et romaine, donc l'époque de Philon, semblent hésitants. Souvent, ils refusent à s'exprimer en leur propre nom. On dit que, écrivent-ils, ou d'après le mythe, mais dans la phrase suivante, ils seront très affirmatifs sur un autre point de la même légende. Ces alternances d'audace et de réserve ne doivent rien au hasard. Elles suivent trois règles. Ne pas se prononcer sur le merveilleux et le surnaturel. Admettre en fond d'historicité et se récuser sur les détails. En remettant en question leur propre mythologie et en essayant de l'accepter, les auteurs judéo-hellénistiques, dont Philon d'Alexandrie, ne se distinguent pas des autres, mais faisaient plutôt partie d'un discours intellectuel commun et largement répandu. Dans une certaine mesure, la lutte de Philon contre le mythe peut être considérée comme un autre exemple d'adaptation judéo-hellénistique. Maren Niehoff a montré subtilement comment le même mythe des Aloades qui déclenche le débat dans le De Confessione Linguarum est également discuté de manière critique dans les scolies homériques. Le refus farouche du mythe par Philon, tel que nous l'avons rencontré au début de son traité sur la création du monde et chez Harry Wolfson au début de son gros livre sur Philon ne peut être concilié avec son utilisation plutôt libérale du mythe grec, ainsi qu'avec sa lutte avec le mythe juif en plusieurs endroits. L'ambivalence de Philon à l'égard des mythes et ses réponses à ce que l'on pourrait appeler le défi mythique s'inscrivent dans une dynamique existante, que ce soit par rapport aux auteurs païens ou aux auteurs judéo-hellénistiques. Cinquième et dernier chapitre, Andromède à Jaffa. Grecs, Romains, Juifs, et on pourrait ajouter chrétiens, partageaient un sentiment ambivalent envers le mythe. Le mythe était souvent dénié, pourtant d'autres circonstances en savaient aussi l'apprécier. Ajoutons un dernier aspect du discours mythologique de l'Antiquité, les visites aux endroits du mythe. Les Juifs ne se sont pas abstenus non plus de ce phénomène que l'on peut appeler le mythotourisme. On consultait les mythes, on les regardait et on les touchait même. Dans sa vie de Moïse, Philon fait référence aux reliques Nemeia en grec de Sodome qui jusqu'à son époque étaient encore montrées. Et encore aujourd'hui, il écrit « On montre, Teiknutai, en Syrie les restes de ce terrible désastre, ruines, cendres, soufre, fumée, une flamme sombre qui s'élève encore comme d'un combustible brûlant à petit feu. » En évoquant les vestiges de Sodome encore visibles, Philon, et d'ailleurs aussi Flavius Joseph, qui les mentionne aussi, participe à un discours mythique très répandu à l'époque hellénistique et romaine. Les traces du mythe étaient alors visibles dans toute la Méditerranée. Le mythe biblique de la punition divine de Sodome fit de cette région un lieu de tourisme. On voulait voir l'endroit où s'était déroulée l'histoire. La littérature païenne fournit de nombreux exemples d'une telle exposition du mythe. On cherchait les traces d'histoires mythiques et on venait les admirer. Il s'agissait souvent d'objets comme des armes d'héros ou des marques locales en rapport avec le déroulement de mythes. La source d'eau malodorante au sud-ouest de Tarente, en Italie, qui indiquerait le tombeau de géant et qui fut montré à Leuca, d'après Strabon, est un exemple païen comparable à la ville de Sodome, incendiée et ses rivières infectes. Ou pour donner un autre exemple, d'après Pausanias, la pierre sur laquelle le héros grec Télamon était assis et depuis laquelle il vit comment ses fils Ajax et Teucros naviguèrent jusqu'à Troie, est encore toujours montrée sur l'île de Salamine, d'après Pausanias. Et les Juifs avaient leur propre réalité mythique. Flavius Joseph, qui, comme Philon, nie normalement tout genre de mythologie juive, et on l'a vu, et critique les mythes grecs, est un témoin important de ce phénomène touristico-mythologique. D'après Joseph, il était encore possible d'aller visiter et voir la femme de Lot, devenue statue de sel, et même aujourd'hui, il y a des guides qui vous la montreraient, ou bien les traces de géants. Autre exemple de reste mythique montré aux visiteurs, les géants jouent un rôle important tant dans la mythologie juive que gréco-romaine. Dans les deux cas, les géants sont le résultat de transgressions, plus précisément de délits sexuels. Selon Genèse 6, les géants provenaient d'une liaison impie entre le domaine divin et l'humain. et les géants du mythe grec proviennent, comme les Erinnyes, du sang d'Uranos, qui est castré. Et dans sa paraphrase de Genèse 6, Flavien Joseph était tout à fait conscient du parallèle avec le mythe grec des géants quand il tient le propos suivant, et vous le voyez ici. Les exploits qu'on leur attribue sont semblables aux actes audacieux que les Grecs rapportent des géants. Les géants bibliques ne disparurent jamais entièrement, d'ailleurs. Les descendants des géants restent une menace pour les Israélites. Et Joseph tisse ce motif plus loin. Par analogie avec la culture gréco-romaine, les géants sont une référence bienvenue pour un monde opposé, en désordre et menaçant. En plus des textes bibliques, Joseph évoque aussi ici les vestiges encore toujours reconnaissables et visités. C'est dans la vieille ville d'Hébron que l'on trouve ces mémorabilia antiques. Et il écrit, il y à Hébron était restée la race des géants qui, par leur grande taille comme par leur morphologie, sans commune mesure avec celle des autres humains, était étonnant à contempler et terrifiant à entendre. Encore aujourd'hui, on en montre des ossements dont l'aspect n'a rien de similaire avec ceux qu'on connaît autrement. Lorsque Joseph rédigea ses antiquités juives à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, les ossements des géants furent d'après lui aussi montrés. Les visiteurs pouvaient admirer, en plus d'ailleurs du très ancien chêne de Mambré et des beaux sépulcres des ancêtres, le spectacle tout à fait spécial des géants. Mais l'exemple le plus significatif pour notre réflexion est la description des chênes d'Andromède dans le troisième livre de la guerre des Juifs de Flavius Josèphe. Joppé n'a pas de port naturel, Joseph écrit. Elle se termine par un rivage rocailleux, rectiligne, sauf à ses extrémités qui sont légèrement recourbées en forme de croissant. Ces deux pointes sont constituées de falaises abruptes ou de récifs qui s'avancent vers le large. On y montre les empreintes laissées par les chênes d'Andromède qui attestent de l'ancienneté de la légende. Pistunta eten archeioteta tumutu. Ce passage est l'une des nombreuses vignettes géographiques de l'œuvre de Flavius Joseph. Il y décrit très brièvement le port de Joppé et ses falaises escarpées. Andromède y aurait été autrefois enchaîné à des rochers. Les marques des chênes seraient encore montrées. Le langage de Joseph est tout à fait semblable à celui des rapports judéo-hellénistiques sur les traces de Sodome et des géants bibliques. Dans le cas de Sodome, c'était les cendres et la fumée qui rendaient le mythe crédible. Dans le cas des géants, les ossements. Ici, le mythe, mutos, obtient de sa crédibilité, pistuntai, du fait que les restes des chênes d'Andromède peuvent être localisés au rocher de Jaffa. La combinaison ici des mots mutos et pistis, crédibilité, est tout à fait remarquable. Joseph n'explique pas le mythe, il le connaît et ses lecteurs aussi. Andromède était la fille du roi éthiopien Séphé et de Cassiopée. Cassiopée s'étant vantée d'être plus belle que les nymphes marines, c'était une faute, celles-ci se plaignirent auprès de Poséidon qui envoyait un déluge dans le pays. Un oracle là-dessus fit savoir que seul le sacrifice de la fille du roi, Andromède, pouvait sauver le pays de la destruction. Elle fut donc enchaînée à un rocher et devint la proie d'un monstre. Selon une version du mythe, celle qui se trouve chez Ovid, cela se passa en Éthiopie, c'est une autre version, plus répandue, justement à Joppé, Jaffa. Derrière cette localisation ambiguë se cache probablement un jeu étymologique, d'ailleurs, on pouvait facilement reconnaître en la ville de Joppé le pays d'origine d'Andromède, Éthiopia. Ce fut finalement Persée, un grand héros de la mythologie grecque, qui sauva Andromède. Persée vola à l'aide de ses chaussures ailées jusqu'au rocher, tua le monstre et délivra la princesse. Le mythe d'Andromède et de Persée était d'une grande importance. Le fils d'Andromède et de Persée, Persès, devint l'ancêtre des Perses. Il était bien connu dans l'Antiquité gréco-romaine et devint un motif populaire dans l'art. Et la scène décisive du mythe se déroula, selon certains, dans le parc de Jaffa, en Judée. Cette dernière précision s'avéra être pour Joseph une occasion bienvenue de relier judaïsme et culture païenne, et cela en dépit de sa critique du mythe païen. D'après Joseph, les restes des chaînes d'Andromède à Jaffa et la situation que ceux-ci furent encore montrés aux visiteurs attestent du grand âge du mythe. Comme mentionné précédemment, Grecs, Romains et Juifs avaient de semblables besoins de mythes. L'exemple du mythe d'Andromède l'illustre parfaitement. Qu'advint-il du monstre que Persée tua au port de Jaffa? Eh bien, il fut transporté et exposé à Rome. Pline l'Ancien, contemporain de Joseph, rapporte ceci. Le squelette du monstre auquel Andromède, 17 ans, fut exposé, apporté de la ville de Jaffa en Judée, fut exhibé à Rome. Entre autres curiosités, par Marcus Scaurus, lors de son édilité, la longueur de ses os était de 40 pieds, la hauteur des côtes supérieure à celle des éléphants de l'Inde, la colonne vertébrale épaisse d'un pied et demi. Les Romains ramenèrent donc les vestiges du mythe d'Andromède en territoire romain. Le même mythe Andromède enchaîné au rocher à Jaffa put donc être exposé aussi bien à Rome qu'en Judée. Les Romains placèrent les ossements du monstre tué par Persée en sécurité et les emportèrent chez eux, mais d'autres vestiges restèrent in situ et furent montrés sur place. À Rome, comme en Judée, les vestiges du même mythe rendirent possible le rapprochement temporel et local d'événements lointains. Juifs et Romains se partagèrent leurs souvenirs d'Andromède, un mythe grec. On est très très loin de Voltaire ici. La question n'est pas de savoir qui a influencé qui. Grecs, Romains et Juifs font tous partie de la même Méditerranée. D'ailleurs, le mythe d'Andromède ne trouve son point final ni chez Joseph, ni chez Pline l'Ancien. Au contraire, il est encore aujourd'hui visible. Un rocher au port de Jaffa est connu comme le rocher d'Andromède. Zela Andromeda. Un quartier proche de Tel Aviv s'appelle Givat Andromeda, la colline d'Andromède. Des guides et sites web touristiques recommandent une visite du lieu. Vous la voyez ici. Selon la mythologie grecque, la belle Andromède était attachée à l'un des rochers le long du rivage en guise d'offrande au monstre marin du dieu Poséidon. Elle était sauvée par Persée. Et les deux se sont ensuite mariés. Le rocher auquel Andromède était autrefois enchaîné est, selon la légende, encore là aujourd'hui. Sur TripAdvisor, quelques touristes d'aujourd'hui se disent quand même déçus du site. Un couple de Paris, j'espère qu'il n'est pas parmi nous ce soir, écrit « Disappointed ». We were expecting to see the beautiful Andromeda chained to the rock, as advertised, but she was nowhere. We asked at a nearby cafe bar, selling delicious pastries, by the way, but the owner just gave me a funny look and went to serve another customer. Would not visit this rock again. D'autres touristes rapportent fièrement ce qu'ils ont appris de leurs guides locaux, ou essaie même de contribuer à la recherche. A rock off the old port of Jaffa has been known as Andromeda's Rock since antiquity, identified with the myth of Andromeda and the sea monster by Pausanias, Strabo and Josephus. Un touriste écrit. Modern guides point to the small rock in the picture. I suspect that the ancient writers were referring to a larger rock that, though still visible, has been incorporated in modern times into the concrete seawall. Either way, the references are another point to reflect upon as one gazes out on the very ancient harbor of old Jaffa. La mythologie grecque demeure encore de nos jours un motif important de notre culture populaire. Elle continue à être perçue communément comme un pilier central de notre héritage occidental. Nous ne semblons pas prêts de la laisser tomber. Même les auteurs judéo-hellénistiques comme Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, pourtant si critiques à l'égard du mythe, ne voulaient pas y renoncer. Et comment les juger? Qui préférait une vie sans mythologie? Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.